Chapitre 2. La maison de la butte des Moulins était tombée. Le mascaron, dont une joue était bleue et l'autre jaune, s'était émietté sous la pioche. Elle s'était évanouie avec le reste de la petite chambre où le vieux caissier David Ewart fut arrêté pour être conduit au tribunal révolutionnaire et à la guillotine. Pendant quelque temps, les nuages de poussière grise qui tournoyaient dans les rues d'alentour portèrent dans les gosiers des hommes et des chevaux les parcelles fort âcres de la vieille demeure. Maintenant, ceux qui l'avaient habité, le teinturier et le terrurier entre autres, n'auraient pu en retrouver l'emplacement exact. Le domaine de M. Feller de Sizac à Meudon s'était considérablement accru. La grille qui resserrait jadis le chalet d'assez près s'était élargi pour contenir le terrain voisin, sur lequel s'éleva aussitôt un petit château gothique avec tourelles, créneaux et mâchicoulis en briques. Le tout avait un nom, c'était la Villa de Sizac. Le plâtre en était frais encore quand un jour un écriteau pendu à la grille annonça que la maison, le chalet et les dépendances étaient à vendre ou à louer présentement. Les saisons se succédaient et les criteaux se balançaient au vent. La pluie et le soleil l'avaient ridé et jauni. Enfin, par des jours d'automne, un silence de désolation s'abattit sur le coteau de Meudon. Puis, à pas lourds, le fusil à l'épaule, le casque de cuir sur la tête, des soldats allemands entrèrent dans le chalet abandonné et s'y logèrent. Ils firent du feu dans le calorifère avec les planches cirées des parquets. Le toit fut crevé par un obus. Le grand hiver était venu, la France était envahie, Paris assiégé. Dans ce grand écroulement d'un peuple, la fortune de M. Feller achevait de s'abîmer. L'arrêt des travaux d'édilité après la retraite du préfet de la Seine, sous le ministère Chevandier de Valdrome, avait déjà porté un rude coup au cabinet d'affaires de la rue Neuve des Petits Champs. M. Feller, que la chance abandonnait, s'abandonnait aussi. Il cessait de teindre ses favoris, mettait des redingotes poudreuses et portait des lunettes en écailles. Il allait risquer dans les intripaux les louis d'aubaine qui lui tombaient encore. Depuis que sa fille ne tenait plus sa maison, il y recevait des filles rousses, peintes, qui chantaient dans les escaliers. On le rencontra un jour aux Folies Bergères avec une femme à chaque bras. Pendant le siège de Paris, il redevint grave et fonda une société d'assurance sur la vie, le Phénix de la Garde nationale. Mais personne n'y fit attention. Hélène était mariée. Elle voyagea pendant 4 ans. Cette vie aisée, sans soins, lui plaisait. Grande, belle, vêtue avec une magnificence sévère, elle était admirée dans les hôtels et dans les casinos où sa nonchalance lui donnait un air d'aristocratie. Elle s'efforça d'aimer son mari, mais avec une pleine probité et un haut sentiment de l'honneur, il était affreusement ennuyeux. Il voyait, entendait, disait et accomplissait tout avec une égale gravité. Il n'y avait pour lui ni grande ni petite chose, il n'y avait que des choses dignes d'être prises en considération. Après avoir donné des diamants à sa femme, il la torturait naïvement pendant 2 heures pour un compte de 3 francs qu'elle ne savait pas rendre. Il faisait des largesses d'une façon étroite. La prodigalité avait chez lui un air d'avarice. Il intervenait dans tous les gaspillages de sa jeune femme, non pour les réduire, mais pour les enregistrer. Il lui permettait d'être dissipatrice, mais à la condition qu'elle accomplit toutes les formalités. Un tiers de sa vie se passait à compter les centimes avec les garçons d'hôtel. Il mettait une obstination invincible à ne pas se laisser voler d'un sou. Oh, il s'y fut volontiers ruiné. D'ailleurs, il calculait tout. Les distances à un mètre près, les longitudes, les latitudes, les altitudes, la hauteur barométrique, les degrés du thermomètre, la direction du vent, la position des nuages. À Naples, il cuba le théâtre de Virgile. Il avait la manie de ranger et ne pouvait souffrir qu'un journal restât ouvert sur un canapé. Il exaspérait Hélène en lui remettant 20 fois par jour dans les mains le livre ou la broderie qu'elle avait laissé traîner. Elle se rappelait alors son père, qui oubliait ses cigares sur les bras des fauteuils de damas. Mais cela n'était rien. La grande souffrance d'Hélène était de vivre avec un homme totalement dépourvu d'imagination. Cette faculté était si étrangère à M. Haviland qu'il était incapable de peindre un sentiment ou de donner de l'intérêt à une pensée. Depuis qu'ils étaient mariés, ils n'avaient jamais ouvert la bouche que pour énoncer un fait précis, direct, immédiat. Sans doute, il était amoureux et goûtait profondément la possession de sa femme. Mais son amour était comme une pluie fine, une de ces pluies qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui ne veulent pas cesser, qui pénètrent et qui morfondent. M. de Haviland était servi par un domestique qui avait fait 2 fois avec lui le tour du monde. Ils étaient inséparables. Ce domestique, nommé Groult, était un Français que M. Haviland avait connu assez jeune à Avranches. Groult n'était pas beau. Il avait les cheveux roux, roides et flambants, et des yeux verts très inquiets. Il boitait. Mais il était d'une propreté exemplaire et remplissait ses fonctions avec une parfaite exactitude. Il était marié, sa femme, comme lui, au service de M. Haviland, restait à Paris et gardait l'hôtel nouvellement bâti sur le boulevard La Tour-Maubourg. M. Haviland s'occupait de chimie et Groult lui servait d'appariteur. M. Haviland se médicamentait quotidiennement et Groult lui tenait sa pharmacie de voyage. Ce Groult était d'une intelligence remarquable. Il manipulait les drogues avec habileté, était adroit dans toutes sortes de métiers et se montrait bien serrurier à l'occasion. Il avait d'horribles mains osseuses avec des pouces énormes et ses mains-là venaient à bout des ouvrages les plus délicats. Mais, bien qu'il fût doué d'une aptitude très singulière pour les arts mécaniques, il n'était pas parvenu à écrire d'une façon tant soit peu lisible. Il s'était fait un alphabet dans lequel il était seul à se reconnaître, et il n'y avait pas moyen de distinguer une lettre ou un chiffre dans les chiffons de papier sur lesquels il griffonnait ses comptes. Son grimoire, ses affreuses pattes, son déhanchement, l'odeur de pharmacie dont il était imprégné, les taches que les oxydes laissaient sur sa peau, le rendaient effroyable aux femmes de chambre et aux cuisinières, qui le nommaient Clochon, avaient peur de lui comme du diable, le jugeaient capable de tout et finalement ne trouvaient rien à lui reprocher. Groult était impeccable. Hélène, à qui il inspirait une répugnance instinctive, essaya de l'écarter, mais elle reconnut bientôt qu'il était indispensable et se résigna à le voir clochant sans cesse entre elle et son mari. Il ne parut pas lui garder rancune et ne se départit pas un seul moment vers elle de ses façons de parfait domestique. La malveillance de madame ne l'avait pas effrayé outre mesure. Il possédait la confiance de son maître et savait que monsieur ne se séparait pas facilement de lui. Il y avait un lien entre M. Haviland et son domestique Groult. Depuis 20 ans, ils cherchaient ensemble Samuel Ewart. M. Haviland était encore un enfant quand il entendit conter pour la première fois la mort du vieux caissier David Ewart, guillotiné en 1794. Cette sublime obstination d'un brave homme, qui attendit le supplice en tenant les livres que ses patrons lui avaient confiés, parut très louable à l'héritier des Havilland, dont l'esprit honnête et positif était fait pour comprendre un dévouement pratique. Il ne témoigna rien de ce qu'il sentait, mais plus tard, devenu maître de ses actions et de sa fortune, il fit des recherches pour savoir s'il ne restait pas quelque descendant du vieux comptable. Il apprit que Andrew Ewart, arrière-petit-fils en ligne directe de David, était négociant à Calcutta. Andrew s'était en effet marié à une indienne et associé à un brahmane pour fonder une maison de commerce sous la raison sociale Andrew Ewart, Usali Sali et compagnie. M. Havilland, suivi de Gould, prit le paquebot pour aller trouver Andrew à Calcutta et lui dire « Votre aïeul est mort, au service du bien, en parfait gentleman, permettez-moi de vous serrer la main, de puis-je avoir l'avantage de vous servir en quelque chose ?» Mais quand il arriva à Calcutta en 1849, il apprit que l'association Andrew Ewart, Lissali et compagnie était dissoute par suite du décès de M. Andrew, mort en juin 1848 du choléra, laissant une veuve et un fils âgé de 4 ans, nommé Samuel. Mrs. Andrew, restée sans fortune, avait quitté la ville avec son petit enfant. M. Havilland ne put retrouver sa trace. Ayant appris que Lissali Sirli était fixé à Villebourbon, il y alla et trouva le brahmane donnant des leçons d'anglais aux enfants du gouverneur de la colonie. M. Lissali Sirli apprit à M. Havilland que la veuve d'Andrew Ewart s'était retirée avec son enfant chez son frère, M. Johnson, ancien officier de Sa Majesté. M. Havilland n'en put découvrir davantage. Maintenant, Samuel Ewart avait 27 ans. Chaque semaine, une annonce insérée dans le Times l'invitait à faire connaître sa résidence à M. Martin Havilland à Paris, et Samuel Ewart ne donnait pas signe de vie. M. Havilland conduisait depuis 25 ans ses recherches sans plus d'ardeur, sans plus de lassitude un jour que l'autre. C'était sa tâche. Il la reprenait chaque matin comme un menuisier reprend son rabot. Gould donnait tous les fils de l'affaire et les démêlait adroitement. Il était particulièrement utile quand il s'agissait d'éconduire un faux Samuel Ewart, car plusieurs aventuriers s'étaient déjà présentés chez M. Havilland comme fils et héritier du feu Andrew. La santé de M. Havilland se troubla pendant l'automne de 1871. Il eut des insomnies et des vertiges. Un jour, c'était au commencement de l'hiver, il s'était établi à Nice, dans la Villa des Oliviers. Hélène, qui lisait un roman dans le salon, fit entrer son mari et poussa un cri d'effroi. « Vos yeux ! Dit-elle, « Regardez donc vos yeux, là, dans la glace !» Les yeux bleus de M. Havilland étaient devenus noirs. Il avait la bouche frémissante, l'air égaré, et il murmurait, « Il viendra, Sam, Sam Ewart !» Il venait finir l'hiver à Paris. La cour de l'hôtel était pleine de malles, de caisses, de paquets, au milieu desquels Madame Gould s'agitait désespérément. Elle portait une camisole d'indienne à petites fleurs, et toute sa personne semblait procéder de cette étoile flasque. Madame Gould, molle et agitée, ressemblait à un paquet de chiffons entraîné par une force invisible. Son visage était perpétuellement noyé dans une sorte de buée. Aussi portait-elle sans cesse son avant-bras cotonneux. Très timorée, elle maniait les cartons sous la direction expresse de la femme de chambre et se perdait dans les ordres et les contre-ordres que celle-ci, frisée et les brides de son bonnet coquettement rejetées en arrière, lui donnait au bout des lèvres en faisant des mines au palefrenier. Hélène jeta sur un fauteuil sa pelisse de voyage que M. Haviland vint plier proprement. Impatientée, elle se mit à battre la marche turque sur la vitre. Le dôme des Invalides brillait à peine sous un ciel brumeux. Tout alentour était d'un gris morne. Elle s'en alla, fort maussade, dans sa chambre. Gould annonça M. Feller de Sizac. L'homme d'affaires venait en grande hâte saluer son gendre et embrasser sa fille. Il était boutonné jusqu'au cou. Son chapeau, tout sillonné de cassures, ne pouvant plus être traité au fer, l'avait été à l'eau. Il avait littéralement arrosé pour en lisser le poil rebelle et le faire reluire une fois encore. Les talons des bottes de M. Feller étaient usés d'une manière si oblique et tellement déviée qu'il était forcé de marcher comme un canard pour y retrouver son aplomb. M. Haviland ne lui tendit pas la main. M. Feller se donna beaucoup de mal pour échauffer son cher insulaire, son très honorable gendre. Avec sa voix métallique, on lui dit qu'il battait le briquet sur un gros caillou. Mais M. Haviland n'étincelait pas. L'agent d'affaires se disait qu'après tout, ce diable d'homme était naturellement terne, et il s'obstinait à l'électriser. Comme on ne lui demandait pas où en étaient ses affaires, il s'écria « Ah, à propos, je ne vous dissimulerai pas que j'ai traversé des temps difficiles. J'ai subi ce qu'on peut appeler une crise. » Il ne pouvait guère dissimuler ces sortes de difficultés à M. Haviland, qu'il avait poursuivi pendant 4 ans de ses demandes d'argent. Il lui avait demandé, pendant le siège, par ballon, par pigeon voyageur, par insertion dans le délai télégraphe, un bon sur un banquier de Paris. M. Haviland avait satisfait à la première demande, puis il n'avait pas même répondu. M. Feller s'était présenté rue de la Victoire, chez M. Charles Simpson, banquier, et avait usé du nom aimé et respecté de son gendre pour emprunter une somme d'argent, recourant ainsi à un artifice qui parut à M. Haviland d'une intolérable correction. Donc, M. Feller ne dissimulait pas ses embarras. Mais il s'était relevé, disait-il, il avait en main une magnifique affaire. Ayant touché ce sujet, il ajusta ses poings sur ses cuisses et respira longuement. Il prenait son attitude. « Il s'agit, dit-il, en fixant sur la corniche un regard napoléonien, il s'agit d'une affaire dont le côté essentiellement moralisateur ne vous échappera pas. Il s'agit d'une banque ouvrière fondée sur des bases toutes nouvelles. À une époque où le développement excessif des classes laborieuses devient un embarras pour l'économiste et constitue, si j'ose dire, un danger permanent pour la société tout entière, le besoin se fait sentir d'une institution qui inspire au prolétariat le sentiment de l'épargne. Dégager désormais les entraves que le précédent gouvernement n'aurait pas manqué de susciter à la fondation d'un établissement de ce genre, il faut agir et... » À ce moment, M. Feller de Sizac vit son lamentable chapeau traîtreusement éclairé par le seul rayon de soleil qui lui eut dans le salon et peut-être dans tout l'hôtel. Il ajouta d'un ton énergique « Et agir vite !» Il demanda ensuite si M. Haviland voulait prendre connaissance des statuts de la banque ouvrière. M. Haviland répondit « Non ». M. Feller de Sizac aurait voulu que M. Haviland se fît une idée générale de la façon dont la banque ouvrière était constituée. Il comptait que son très honorable gendre donnerait des conseils précieux. Enfin, pourquoi ne pas le dire ? L'affaire était digne de l'intérêt des plus gros capitalistes et il se faisait scrupule de ne pas appeler M. Havilland à bénéficier des avantages réservés aux premiers actionnaires de la banque ouvrière. Il se tut. M. Havilland sonna son domestique et vint en boitant. Gould, lui dit-il, ôtez ce cigare. C'était un cigare de 2 sous, éteint et mâchonné, que M. Feller de Sizac, en entrant, avait posé sur le bord de la console. Puis M. Havilland regarda M. Feller en face et lui dit « Je ne vous donnerai pas de conseils parce que vous ne m'écouteriez pas. Je ne vous donnerai pas d'argent parce que vous ne me le rendriez pas. Vous n'êtes pas un gentleman, non. Je vous prie de ne jamais revenir chez moi. Non, vous pourrez voir Mme Havilland quand il vous plaira, oui. » Et il sortit. M. Feller, étourdi du coup, bouleversé, se sentant un homme fini, eut le courage d'embrasser gaiement sa fille et de lui dire des bagatelles. Elle l'accueillit avec une tendresse d'enfant. Il y avait dans le caractère de cet homme quelque chose de facile, qui sympathisait avec la nature paresseuse d'Hélène, et c'était son père, enfin. D'un seul coup d'œil de femme, elle vit la chemise effilée sur les bords, la redingote blanchie au collet et le chapeau, toutes les misères de la toilette paternelle. Elle soupçonna la vérité. Mais la voyant soucieuse, il sourit, le pauvre homme. Il allégua des affaires magnifiques qu'il absorbait. Il s'accusa de se négliger en vieillissant. Il demanda si elle était heureuse. Il lui conseilla de bien aimer son mari. Puis, l'ayant embrassé avec effusion, il redescendit l'escalier d'une allure si lourde qu'il semblait vieilli de 10 ans, rapetissé, l'œil morne, le menton pendant, la tête basse, sous son éternel chapeau. Hélène s'aperçut que son mari s'était brouillé avec son père. Bien qu'elle devinât les raisons de cette rupture, elle en sut mauvais gré à son mari. C'est à ce propos que commencèrent les allusions aigres, les querelles sans motif apparent, sans explication possible. Comme elle était affectueuse, par grands élans, elle jeta brusquement toutes ses tendresses perdues sur le neveu de son mari, Georges, adolescent blond et fin, très joli, boudeur et caressant. Georges Havilland, né à Avranches et élevé dans la religion catholique, au milieu de la petite colonie anglaise de cette ville, était orphelin. Son oncle, qui lui fut donné pour tuteur, le plaça comme externe au collège Stanislas. Hélène gâtait Georges avec les meilleures intentions du monde. Elle le peignit elle-même de 20 façons pour voir comment il serait le plus joli. Elle lui faisait quitter ses devoirs le soir pour l'emmener au concert, ou bien au spectacle. Mais ses journées étaient vides, elle s'ennuyait, elle pleurait, elle aurait voulu vivre dans un grenier, seule avec son père. Elle s'échappait et courait en secret chez l'homme d'affaires, qui pour le moment était logé dans la rue de Rome, au 4e étage d'une maison neuve dont il essuyait les plâtres. Ses courses en fiacre l'amusaient beaucoup. Elle baissait sa voilette et tremblait comme pour un rendez-vous. Le logement de son père avait l'aspect d'un logement de garçon. Les pipes traînaient parmi les papiers sur les tables. Le divan était bien fané, mais si accueillant et doux, en dépit des ressorts cassés. Hélène baisait son père sur ses grosses joues lourdes et furetait dans les coins. Quand elle découvrait quelque objet de femme, une ombrelle, une voilette, elle faisait mine de n'en rien voir, pinçait les lèvres et riait des yeux. Son père restait devant elle, muet d'amour et d'admiration. quand elle avait remué les papiers, mangé les gâteaux, bu et ri et bien tiré les favoris de son papa, elle partait avec un gros soupir. Et lui, sur le palier, rajustant sa calotte dérangée par les embrassements, lui disait à l'oreille « Aime bien ton mari, aime-le de tout ton cœur. » Alors elle détestait son mari. Tapie au fond du fiacre, elle se figurait devant elle, sur le dos du cocher, avec ses yeux ternes et ses joues sanguinolentes comme une viande mal cuite. Et elle faisait une grimace de dégoût. Y avait-il au fond de son âme, dans la région des anciennes images, une figure à demi effacée, mais aimable, mais chère, la figure d'un absent qui ne revenait pas? Dans les soupirs de cette femme ennuyée, n'y en avait-il pas qui poussait vers quelqu'un, allait loin, bien loin, sans arriver jamais? Un jour, qu'ayant laissé tomber sur ses genoux, comme un poids trop lourd, une broderie commencée depuis longtemps, elle regardait, avec cette attention obstinée que donne l'ennui, les imperceptibles irrégularités des glaces de la fenêtre qui faisaient onduler les profils d'architecture vus au travers. Sa femme de chambre lui présenta une carte de la part de quelqu'un qui était là et qui demandait à la voir. Ayant vu la carte, elle se leva vite, rajusta les boucles de ses cheveux, les plis de sa jupe, et entra dans le salon, ranimée, embellie, avec des grâces de cygne dans le col et un coup de talon souverain dans la traîne de sa robe. René Longuemare se leva devant elle. Il était plus pâle qu'autrefois. Ses joues mieux remplies et tous ses traits s'étaient adoucis. Une teinte séreuse les revêtait et ses yeux luisaient dans un demi-cercle plombé et martelé, trace des fièvres qu'il avait prises là-bas dans les rizières. Il avait toujours son regard brave, sa grosse bouche affectueuse, sa mine ouverte. « Vous voyez, lui dit-elle, que la terre est petite et qu'on revienne partout. Je ne suis pas surprise de vous revoir et j'en suis bien heureuse. » Ils furent mal à l'aise d'abord. Chacun avait un long espace de vie inconnu à l'autre. Il cherchait à se reconnaître. Soit qu'elle voulût faire son devoir de maîtresse de maison, soit qu'elle fût tentée par un secret sentiment, elle lança le premier mot cordial. « On a quelquefois pensé à vous, » dit-elle. Alors René plongea hardiment dans leur commun souvenir. Il parla des tasses de thé de la rue Neuve des Petits Champs, des promenades à Meudon, des robes roses et blanches griffées par les ronces, des beaux gilets de M. Feller auxquels on se raillait dans les excursions, à travers bois, comme au panache du Béarnais et des folies qu'il se disait. Elle lui demanda s'il mettait toujours des grenouilles dans ses poches. Au bout d'un quart d'heure, il croyait ne s'être jamais quitté. C'est alors qu'il conta sobrement son voyage et les fatigues monotones du service dans une station malsaine. Elle ouvrait tout grand en l'écoutant, ses beaux yeux humides. Puis elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Oh, il était là, disait-il, de la médecine militaire. Il donnerait sa démission, se ferait médecin de campagne, rebouteux de village. Si quelque jeune fille très ingénue était tentée d'élever ses poulets sous sa protection, il l'épouserait. Elle dit vivement, « Ah, vous voulez vous marier ?» Mais elle reconnut à ses réponses qu'il n'y tenait pas, qu'il avait dans le cœur un grand vague, quelque tristesse et peut-être un souvenir. Georges, revenu du collège, vint se jeter entre eux avec ses livres de classe et se disposa, en enfant gâté, à jouir de la distraction que ce monsieur allait lui procurer. Elle ne le renvoya pas, lui dit de se tenir tranquille et de faire ses devoirs. Le major comptait quelques épisodes de sa traversée, tandis que l'enfant feuilletait bruyamment son dictionnaire, mâchait son porte-plume et relevait la tête, quand il entendait parler d'araignées de mer mangées vivantes par un matelot sur le pont d'un navire. La femme de chambre vint dire que monsieur, qui était souffrant, priait madame de venir près de lui. La chambre de monsieur Havilland était grande et toute remplie d'objets étranges rangés dans un ordre précis. Il y avait une vitrine pleine de flacons cachetés et étiquetés. On lisait sur les étiquettes Tage, Jourdain, Simoïs, Eurotas, Tibre, Ohio, etc. Il avait recueilli une demi-bouteille de l'eau des fleuves qu'il avait traversée. Une autre vitrine contenait des échantillons de tous les marbres de la terre. Il y avait aussi une armoire qui, réservée aux souvenirs historiques, enfermait des pierres de la prison du Tasse, de la maison natale de Shakespeare, de la chaumière de Jeanne d'Arc et du tombeau d'Héloïse, des feuilles du saule pleureur de Sainte-Hélène, une pièce de verre écrite par Lassner à la conciergerie, un porte-montre volé aux Tuileries en 1848, un peigne ayant appartenu à Mademoiselle Rachel, et dans un tube de verre un cheveu de Joseph Smith, prophète des Mormons, sans compter les autres reliques. De grandes tables de bois blanc, des tables d'architectes, étaient couvertes de fioles, et la chambre exhalait une odeur pharmaceutique très caractérisée. Monsieur Havilland était étendu sur une chaise longue près de son lit de fer. Une couverture de voyage lui enveloppait les jambes. Il était blême avec des plaques rouges sur les joues. Ses yeux, devenus sombres, sortaient des orbites. Il prit les mains de sa femme avec cette tendresse avide des êtres qui sentent que tout leur échappe. Il lui dit qu'il l'aimait, qu'il lui avait de la reconnaissance, qu'il se sentait bien malade, qu'il espérait guérir, étant fort bien soigné par sa méthode que Gould savait fort bien appliquer. Ses paroles étaient coupées de vertige. Il poursuivit : Je dois vous avertir, Hélène, que j'ai des moments d'égarement. Cela tient à mon mal. Tout ce que je ferai dans ces moments doit être considéré comme non avenu. Heureusement, mes affaires sont en règle. Mon testament est chez mon notaire. » Il lui dit alors qu'il lui laissait en viager l'usufruit de sa fortune, dont le capital devait être mis en toute justice sur la tête de Georges Havilland. Il avait pris aussi des dispositions en faveur de son domestique Gould, mais il l'en avait informé. Il pressa de nouveau les mains de sa femme, la fixa de ce regard étrange et douloureux qu'il avait quelquefois, et l'adjura d'écouter ce qui lui restait à dire. Si je viens à mourir, et si vous vous souvenez de moi, cherchez, ma chère Hélène, cherchez Samuel Ewart, exécutez en sa faveur mes dernières volontés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra ressusciter les morts, je vous adjure de ne rien négliger pour faire parvenir au dernier descendant de David Ewart la somme que je lui destine. Il vit, il y a des nuits où je le vois. Je le reconnaîtrai s'il venait. Il viendra. Alors le malade regarda fixement une portière sombre qui pendait à grands plis, allongea son bras qui tremblait et s'écria : Là, là, devant cette porte, c'est lui, c'est Sam Ewart. Vous voyez bien cette marque qu'il porte au cou sous sa chemise de matelot. C'est une marque rouge à cause de son arrière-grand-père, le vieux David. Sam, Sam, oh mon Dieu! Il retomba sur sa chaise longue et s'assoupit lourdement. Hélène ne savait que faire et se perdait dans les fioles. Elle sonna Groult, qui l'écarta assez rudement et s'empara du malade. La nuit, comme elle ne dormait pas, elle vit au clair de lune son mari descendre, enveloppé d'un tartan, par la fenêtre de sa chambre et marcher droit vers un puits qui était près de l'écurie. La face collée à la vitre, elle sentit une vive douleur à la racine de ses cheveux. Elle ne put ni bouger ni pousser un cri. Elle vit Groult sortir à demi vêtu du pavillon où il couchait et suivre à pas de loup son maître. Elle vit celui-ci regarder longtemps au fond du puits, lever la tête, étendre la main comme pour chercher de quel côté venait le vent, puis rentrer par la fenêtre dans sa chambre. Elle vit Groult hausser les épaules et regagner le pavillon avec un déhanchement maussade et des gestes de dépit. Madame Groult avait apparu un moment sous un bonnet à bas-volets immense et dans son éternelle cotonnade à la porte du pavillon de garde. Hélène crut entendre que Groult rentrait dans sa chambre, la battait. Monsieur Haviland était devenu somnambule. Le lendemain, elle le trouva tout habillé, paisible, occupé silencieusement à étiqueter les petites pierres qu'il avait arrachées à des monuments fameux. Il écrivait sur des papiers gommés les mots de Colisée, catacombe, tombeau de Cecilia Metella. Ses yeux, redevenus d'un bleu terne, n'exprimaient rien. Hélène n'était pas rassurée. Elle voulut rester près de lui. Elle se promettait de le veiller elle-même et de faire venir des médecins, bien qu'il l'eût formellement défendu. Groult entra dans la chambre avec une bouteille et un verre. Il versa du sirop dans le verre et le tendit à son maître, en regardant fixement Hélène. Il la regardait avec une familiarité cynique, avec une effronterie audacieuse qui la fit rougir. Monsieur Haviland, peu de temps après avoir bu, fut repris de vertige et de stupeur, et sa pupille se dilata de nouveau extraordinairement. À compter de ce jour, Hélène fut tourmentée d'une inquiétude vague. Un soir, vers 5 heures, elle remarqua sur le tapis de sa chambre des traces de souliers ferrés. Les pas ainsi révélés traversaient obliquement toute la chambre et se dirigeaient de la porte extérieure à celle du cabinet de toilette. Les traces, extrêmement faibles, n'apparaissaient qu'à cause des rayons obliques du soleil qui, rasant dans ce moment le tapis, rendait visibles les plus légères foulures de la laine et les grains de poussière blonde sur les tons riches et fondus du tissu de Smyrne. Effrayée, elle fit visiter le cabinet de toilette par sa femme de chambre, qui y trouva tout en ordre. Elle chercha quelque temps dans son esprit à s'expliquer ces traces de pas. Elle ne put y parvenir, et, fatiguée de s'inquiéter, elle rentra dans son indifférence. Quand René Longuemar revint, Hélène, qui l'attendait, était coiffée de la façon qu'il aimait le mieux. Elle fut faible devant lui, lui avoua les misères de sa vie, les ennuis de son mariage. Elle sentait qu'elle l'aimait. Elle aurait voulu tomber dans cette poitrine large et chaude, y pleurer, y tout oublier. René restait très calme près d'elle. Plus elle se confiait à lui, plus il se croyait engagé à ne pas abuser de cette confiance. Il l'aimait respectueusement. Elle était la poésie de sa vie de garçon, où d'ailleurs la prose ne manquait pas. Il avait repris à Paris ses vieilles habitudes, et il soupait tous les soirs au sortir de quelques petits théâtres. Il y avait dans son âme une haute et large place pour une créature idéale, et à cette place il avait mis Hélène. Elle, de son côté, bien lasse, bien faible, abaissée à ses propres yeux par un mariage sans amour, mais réservée par bon ton et décente par goût, retenait devant lui ce qu'il y avait de trop voluptueux et de trop abandonné en elle. D'ailleurs, exempte de toute faute, il lui semblait monstrueusement impossible d'en commettre une. Elle lui parla de la maladie de son mari. René hocha la tête. Il ne savait que dire. Mais il était probable que M. Havilland se médicamentait mal. L'aide-major ne diagnostiquait pas, d'après les symptômes qu'on lui décrivait, une affection caractérisée, suivant sa marche naturelle. Il pressentait l'action intermittente d'un agent nuisible, d'un toxique. La dilatation de la pupille était vraisemblablement due, selon lui, à un emploi inconsidéré de la belladone ou de l'atropine. M. Havilland avait dû recourir, pour combattre ses rhumatismes, au sulfate chlorhydrate d'atropine. Maintenant, selon toute apparence, il abusait de ce médicament de la façon la plus désastreuse. Sur le conseil pressant de René, elle résolut de nouveau d'appeler des médecins et de garder elle-même le malade. Le lendemain, elle le trouva dans un grenier qui lui servait d'atelier. Il rabotait une planche avec beaucoup d'attention, car il était menuisier, aussi bien que chimiste. En le voyant si calme, si reposé, elle crut avoir rêvé. Il parla du cuisinier qui était un voleur et qui l'avait chassé. C'était Gould qui avait découvert la fraude. Il posait de temps en temps son rabot sur l'établi et venait ôter délicatement les copeaux que sa femme avait pris dans un guipure de son peignoir. Il avait ses yeux naturels, ses yeux clairs, et jamais il n'avait autant manqué d'imagination. Elle songeait à René, si vif, si intelligent, d'un esprit plein d'intérêt, comme un livre bien fait, d'une âme éclatante de jeunesse et de force, et son cœur se gonflait de haine en regardant ce vieillard qui rabotait. Gould vint à l'heure ordinaire apporter le sirop à son maître. Quand il vit Hélène dans ce grenier où elle n'avait jamais mis les pieds, il roula des yeux de chat furieux. Puis, comme l'autre fois, tandis que M. Havilland buvait son sirop, il la regarda avec impudence en grommelant entre ses lèvres tordues. En ce moment précis, il était si laid et montrait un tel cynisme que sur le champ, d'un coup, elle sut clairement, certainement à n'en pas douter, ce qu'il faisait là. Elle tendit les bras en avant pour faire tomber le verre des lèvres du vieillard. Alors Gould lui glissa à l'oreille avec un accent ignoble et dominateur ces mots. « Faites pas l'enfant !» Elle resta raide, inerte, toute blanche. M. Havilland avait fini de boire et essuya les lèvres. La malheureuse s'enfuit dans l'escalier, accablée, étourdie, croyant à chaque pas s'effondrer sous terre, épouvantée de son incommensurable lâcheté. Elle n'osa plus reparaître devant son mari. Mais elle apprit le soir même, par sa femme de chambre, qu'il avait eu un délire violent et que maintenant il reposait. Elle l'avait cru mort. Elle poussa un soupir de soulagement. Elle se dit, mais il vit, il est temps encore de parler, d'agir. Oh, je ne serai pas la complice d'un... Dans la détente de ses nerfs, elle s'assoupit et toute tiède et molle de sommeil, elle songea à René, qu'elle revit avec toutes les charmes du rêve, avec toutes les magies d'un absent aimé. Puis ses visions devinrent confuses et pénibles. Elle avait la tête en feu, elle frissonnait, ses dents claquaient. Elle éprouva à se mettre au lit une sensation qui ressemblait à de la joie, puis elle ne sut plus ce qu'elle était devenue. Elle voyait des figures terribles qui passaient et qu'elle n'avait pas le temps de reconnaître. Où donc était-elle? Et que lui voulait cette foule d'étrangers vêtus de toutes sortes de costumes de théâtre? Quelque chose de chaud qu'elle écartait sans cesse avec horreur lui pesait sur la poitrine à l'étouffer. C'était un chat rouge, avec des yeux qui changeaient de couleur. Elle écartait les coudes et pliait les genoux. Une religieuse venait rajuster des couvertures sur elle. Mais pourquoi cela? Et puis ils étaient là, deux ou trois, qui l'empêchaient de sortir. Elle avait pourtant quelque chose de bien grave à faire, quelque chose qu'on ne pouvait différer d'une minute. Elle ne savait plus quoi. Elle criait « Oh, ma tête, ma pauvre tête !» Elle souffrait tant du cerveau qu'elle cherchait partout un mur de fer, pour se fendre le crâne et être ainsi soulagée. Oh, vide, il se faire une fente bien large pour tirer toute l'eau qui bouillait là. Une voix inconnue disait « De la glace, encore de la glace !» Mais elle ne voyait pas de glace, perdue comme elle riait sur une grève de sable brûlant, au bord d'une mer de plomb fondue, et elle criait « René, René, emmenez-moi dans les bois de Meudon. Avez-vous publié le temps où vous me faisiez des bouquets? Les avez-vous oubliés? Des bouquets à l'aubépine ?» Puis elle tombait assoupie, et à son réveil, devenue une enfant, elle récitait d'une voix monotone de pensionnaire des lambeaux de fables et de catéchisme. Elle murmurait « Je ne peux pas prendre mes leçons. Madame, j'ai mal à la tête. Menez-moi à la maison, je veux revoir papa. » Un jour, elle se retrouva dans son lit, bien faible, ayant très faim. Elle apprit de la religieuse qui la gardait qu'elle avait fait une grave maladie de 3 semaines et qu'elle était sauvée. Après un grand effort pour rassembler ses souvenirs, elle demanda « Et mon mari ?» La religieuse lui dit de ne point s'inquiéter, qu'il allait bien. Hélène respira. Entrée en convalescence, elle eut ses fatigues de tête et ses obstructions de la mémoire qui suivent ordinairement la fièvre cérébrale. Il n'y avait qu'un sentiment bien net en elle, la peur de revoir son mari. Elle eut des palpitations de cœur quand il lui annonça que M. Haviland, convalescent lui-même, venait la voir dans sa chambre. Il la regarda affectueusement, lui dit combien il l'aimait et pour la première fois, elle vit un sourire sur ce visage grave. C'était un sourire intérieur, si profond, si vrai, qu'elle en fut remuée et attendrie. Elle se mit à pleurer et à faire au vieillard une caresse filiale. Elle lui passait les bras autour du cou, mais il avait repris sa roideur habituelle. Elle fit un grand effort, et à travers le brouillard de son intelligence, elle retrouva les 2 potions versées par gouttes. Alors elle prit les mains de son mari et lui dit d'un ton suppliant « Si vous m'aimez, si vous voulez nous éviter à l'un et à l'autre une mort horrible, Je vous conjure de renvoyer votre valet de chambre aujourd'hui, tout de suite. Ce qu'il a fait, c'est épouvantable. Je ne peux pas le dire. Chassez-le. Chassez-le. Elle se roidit dans des sanglots convulsifs et s'évanouit. Monsieur Haviland, se rappelant qu'Hélène avait autrefois témoigné de l'aversion pour le valet de chambre, et la voyant si faible et si troublée, pensa qu'elle parlait sans raison. Mais, jugeant nécessaire de lui sacrifier son domestique, il le fit appeler dans le laboratoire et lui dit « Groot, il faut nous séparer. Je suis content de vous et j'aurais voulu vous garder auprès de moi jusqu'à ma mort, oui. Mais votre présence dans cette maison est devenue impossible pour des raisons que je n'ai pas à vous soumettre, non. Je ne changerai rien aux dispositions que j'ai prises en votre faveur. Je vous le dis et vous pouvez me croire. Vous quitterez l'hôtel vendredi. Je me charge de votre entretien jusqu'à ce que vous soyez pourvu. Votre femme me sera agréable en restant à mon service et je tiens à me tenir en communication directe avec vous pour tout ce qui concerne Samuel Ewart. Je n'ai plus rien à vous dire. » Groot ne répondit pas, s'inclina et sortit. Groot avait été ainsi congédié un vendredi. Le lendemain, M. Haviland se sentit mieux portant qu'il ne l'avait été depuis plusieurs mois. Il fit ce jour-là une promenade au bois de Boulogne avec Hélène qui se rétablissait. Les légères secousses de la voiture et les caresses de l'air donnaient aux deux convalescents une agréable fatigue. Hélène avait tous les renoncements de la lassitude. Elle acceptait en ce moment-là, de tout son cœur amorti, le mari fade et le sort monotone qui lui était dévolu. La faiblesse donne de ses douceurs. Par un égoïsme de malade, elle devenait affectueuse pour l'homme qui était à son côté dans la calèche, les genoux sous la même fourrure qui la réchauffait. Elle regardait d'un œil frileux les arbres, les réverbères, les piétons que la voiture faisait filer derrière elle et les maisons de l'avenue des Champs-Élysées, avec leurs ateliers de carrosserie et les allées sablées où s'enfonçaient sous la voûte dans l'ombre des chevaux tenus en bride par des palefreniers aux jambes arquées. Puis l'arc de triomphe dressé sur son rond-point avec une emphase pesante. Puis à gauche, l'avenue qui mène au bois, bordée d'une double bande de parcs anglais. Elle voyait à droite les cavaliers dans l'allée sablée. Un soleil de printemps baignait l'étendue. Déjà les arroseurs traînaient leurs tuyaux à roulettes et poussaient des jets d'eau contre les jambes des chevaux qui hésitaient. Parfois, le vent et l'ombre d'une Victoria, vivement lancée, lui passaient sur le visage. C'était une fille à cheveux roux, blafarde et les lèvres peintes, qui, les coudes aux côtés, tenait les guides et brûlait l'avenue, tandis qu'un groom, assis derrière elle sur le siège, se croisait les bras. Puis la fraîcheur du bois enveloppa la calèche ralentie. Les voitures, égayées par de vives toilettes et de clairs visages, allaient à la file, au pas. Des saluts s'échangeaient d'une voiture à l'autre, et des cavaliers s'approchaient en souriant des femmes épanouies sous le fond sombre des capotes abaissées. Une noce d'ouvriers défilait à pied, par couple, dans la contre-allée. Hélène trouvait à son mari une roideur correcte qui ne lui déplaisait pas. Elle lui savait gré de son bon ton et de son flegme. Le silence de cet homme, le calme de sa face, la simplicité de ses idées la contentaient alors, comme autant de ménagements délicats donnés à une convalescente. Elle l'estimait précieux depuis qu'elle l'avait sauvé. D'ailleurs, ayant peur de penser, elle goûtait les délices d'une fatigue modérée et d'une faiblesse qui diminuait. Elle se pelotonnait avec la volupté d'une chatte frileuse. Ils descendirent près de la cascade et entrèrent dans le chalet d'un cafetier pour y boire un verre de lait. À sa droite et à sa gauche, les tables étaient occupées par des vieillards qui chuchotaient et des frissons d'étoffe se mêlaient au faible sifflement des langues féminines. Devant elle, trois jeunes gens discutaient avec des éclats de voix. Elle ne connaissait pas ceux qui lui faisaient face, mais elle reconnut à une seule ligne de l'épaule celui qui lui tournait le dos et qu'un garçon de café lui cachait presque tout entier. Elle sentit une contraction douloureuse de l'estomac, un étouffement à la gorge, une brûlure de sang aux joues, une angoisse indicible, en même temps qu'une affluence de délices trop forte l'envahissait. Longue mare qui lui donnait ce trouble, fort éloigné de se croire si près d'elle, continuait la conversation tumultueusement commencée et poussait, selon sa coutume, quelque idée à toute outrance. Le seul praticien que j'admire, disait-il à ses camarades, qui, comme lui, semblait avoir fait un bon déjeuner, le seul, c'est Pinel. Il ne donnait jamais aucun médicament à ses clients, de peur de troubler ou d'arrêter le cours normal de la maladie. Satisfait quand il avait pu décrire et classer une lésion, il s'abstenait prudemment de la guérir. Devant les merveilleux progrès d'une plaie active, il restait attentif, respectueux, immobile. Ah, quel médecin que Pinel ! La voix de René se perdit dans un bruit de rire. Les interruptions jaillirent, les trois amis parlèrent ensemble. Hélène avait la gorge sèche, ses tempes bourdonnaient, ses yeux ne voyaient plus, la sueur perlait sur son front. Son mari, la voyant si pâle, lui demanda si elle était fatiguée, si elle voulait rentrer. Elle le regarda et le trouva odieux. Il avait la face couperosée avec des filaments violets et des pellicules blanches sur les joues. Il roulait des yeux ternes et vides. Maintenant, elle lui en voulait presque de sa santé rétablie. Quand ils se levèrent, Longuemare la vit. Le regard qu'ils échangèrent fut tel qu'il semblait les tirer violemment l'un vers l'autre. Le lendemain, le vieillard ne put quitter sa chambre. Les symptômes de son affection intermittente reparurent et prirent au bout de quelques jours un caractère alarmant. Le vendredi matin, Hélène fit appeler un médecin. Ce jour-là, le malade avait un aspect effrayant. Les conjonctives étaient injectées de vaisseaux bleuâtres et les yeux sortaient de leurs orbites comme à demi arrachés. Le délire était furieux. Le docteur Hersan, survenu au milieu de l'accès, prescrivit une médication antispasmodique et sédative qui ne produisit aucun effet sensible. Diagnostiquant une lésion indéterminée mais profonde des centres nerveux et craignant qu'une terminaison fâcheuse ne suive de près sa venue, il déclara que le cas était grave et demanda une consultation pour le soir. En ce moment, Groult, ayant fait faire son paquet par sa femme, prenait un fiacre et quittait l'hôtel, conformément à l'ordre qui lui avait été donné. Hélène restait seule près du malade. Terrassée par une épouvante sans nom, elle n'osait le regarder. Puis tout à coup, saisie d'une horrible curiosité, elle l'examinait de tous ses yeux et voulait voir encore, jusqu'à en mourir. Le malheureux luttait contre deux valets qui le retenaient à grands efforts sous les couvertures. Il réclamait sa femme et Samuel Ewart. Sa voix, dont toutes les cordes étaient altérées, semblait nouvelle et d'autant plus épouvantable. Il soupirait le nom d'Hélène avec une douceur plaintive et aussitôt poussait des glapissements aigus et des ricanements sinistres. Et le contraste était si brusque qu'on ne pouvait concevoir de telles alternatives de tendresse triste et d'ironie furieuse, même dans un cerveau déjà décomposé. Et l'horreur d'une telle scène se décuplait en passant par l'imagination blessée d'Hélène. Elle sentait comme des fils de métal rougis au feu lui courir de la nuque au talon. Une cuirasse ardente lui cernait le ventre et les flancs. Et elle écoutait la voix de son mari avec une attention lucide. Sa torture augmentait de n'y pouvoir découvrir même le sens le plus vague. En cet instant, si elle avait entendu cet homme la dénoncer clairement de la langue et du doigt et la maudire, en vérité, elle se serait sentie soulagée. À 10 heures du soir, les docteurs Hersant, Guérard et Baldec se réunirent autour du malade qui, pris devant eux d'un tremblement de tous ses membres, s'assoupit. Il avait l'air de dormir. Et un nouveau supplice, le plus affreux de tous, commença pour Hélène. Elle se sentit reprise d'amitié et de respect pour cet homme loyal qu'il avait aimé. Elle se sentait des larmes pour lui, et ces larmes lui faisaient horreur comme une infâme hypocrisie, car n'était-ce pas elle qui... Le souffle du malade se précipita et devint si pénible que ceux qui l'entendaient, à l'exception des médecins, se sentaient eux-mêmes oppressés. Ses mains osseuses, étendues sur la couverture, la grattaient d'un geste frileux et maladroit. Le docteur Hersant lui prit le poignet gauche. Il constata l'affaiblissement du pouls et le refroidissement des extrémités. Le nez se déprimait, les yeux se cavaient. Il les roula autour de lui comme pour tout revoir et tout reconnaître une fois encore. Puis il inclina la tête en arrière, poussa 3 soupirs et rentra dans le repos. Un geste du docteur Hersant annonça que tout était fini. Hélène, qui s'était tenue debout et droite dans la solennité de cette agonie, entendant qu'il était mort, sentit le sol s'ouvrir sous elle et ressentit une délicieuse impression d'anéantissement. Avec quelle volupté elle sentit pendant une seconde qu'elle s'évanouissait tout entière. Oh, qu'il lui était doux de n'être plus. Elle tomba. Les docteurs Guérard et Baldec rencontrèrent dans l'antichambre un monsieur court, à gros favoris et à lunettes d'écaille, qui leur prit la main dans les siennes et leur dit d'un accent pénétré: messieurs, vos efforts ont été impuissants. L'art des hommes, si étendu qu'il soit, ne limite. Les princes de la science ne commandent pas toujours à la nature. Je suis de ceux qui honorent le courage malheureux. Je vous le déclare, monsieur Feller de Sizac n'oubliera jamais les soins éclairés que vous avez prodigués à son honorable et sympathique gendre. Puis monsieur Feller se dirigea d'un pas grave et lent vers l'office où il se fit servir une légère collation. Madame Gould, inondée de sueur et de larmes, poussait des gloussements dans sa loge. Le docteur Hersant se fit conduire chez madame Afiland, dont l'état exigeait quelques soins. Quand elle vit entrer dans sa chambre ce grand homme noir qu'elle ne reconnaissait pas, la peur détermina en elle un accès de délire. Elle étendit les bras en s'écriant « Non, ce n'est pas moi. Je vous jure que ce n'est pas moi. »